Deuxième partie. Chapitre 22. Après des siècles de chaleur semi-tropicale, l'hiver était tombé sur le château d'Ardis. Il n'y avait pas de neige, mais seules les feuilles les plus têtues restaient accrochées aux arbres des forêts environnantes. Une blancheur matinale matérialisait pendant une heure l'ombre portée du manoir. Ada passait la matinée à observer la pelouse ouest, où le givre battait lentement en retraite vers le bâtiment jusqu'à se réduire à une mince bande, et, à en croire les visiteurs venus du pavillon Fax, distant de 2 kilomètres, les deux rivières qui croisaient la route charriaient quelques blocs de glace. Ce jour-là, l'un des plus courts de l'année, Ada fit le tour de la demeure le soir venu afin d'allumer les nombreuses bougies et lampes à pétrole, se déplaçant avec grâce en dépit de ses 5 mois de grossesse. Le vieux manoir, bâti plus de 1800 ans auparavant, avant le dernier Fax, était relativement confortable. Sur les 68 pièces qu'il comptait, un peu moins de 2 douzaines étaient chauffées par des cheminées, jusque-là utilisées dans un but d'agrément ou de décoration. Quant aux autres, Arman y avait installé des poêles Franklin, qu'il avait construits lui-même après en avoir siglé les plans, et il dégageait une telle chaleur ce soir-là qu'Ada sentit la somnolence la gagner tandis qu'elle faisait le tour du rez-de-chaussée, puis gravissait l'escalier pour éclairer les pièces des étages. Elle marqua une pause devant la grande fenêtre cintrée à l'extrémité du couloir du 2e étage. Pour la première fois depuis des millénaires, songea-t-elle, les forêts reculaient devant les haches des hommes, qui ne cherchaient pas uniquement du bois de chauffage. Grâce au pâle feu du crépuscule hivernal, elle distinguait au travers du verre gondolé par la pesanteur la masse gênante mais rassurante de la palissade courant sur la pelouse côté sud. Ce mur d'enceinte protégeait le château d'Ardis sur la totalité de son pourtour, à une distance qui allait de 30 mètres à une centaine, là où il longeait la lisière de la forêt. On avait aussi abattu des arbres pour ériger des miradors aux angles de la palissade et d'autres encore pour abriter dans des chalets et des baraquements les quelques 400 personnes demeurant à présent dans le domaine d'Ardis, les tentes ayant été repliées à la fin de l'été. Où est Arman? Cela faisait des heures qu'Ada refoulait cette interrogation de plus en plus pressante. Les tâches domestiques étaient là pour la distraire. Mais elle ne pouvait plus désormais ignorer son inquiétude. Peu de temps après le lever du jour, son amant, ou plutôt époux, pour utiliser le terme archaïque qui avait sa préférence, était parti en compagnie d'Anna, de Pétir et d'Odysseus, qui insistaient ces derniers temps pour qu'on l'appelle personne. Ils avaient emporté avec eux un droski tracté par un bœuf et comptaient rayonner sur 1 quinzaine de kilomètres afin de rapporter du gibier ainsi que du bétail égaré.
Ils auraient dû rentrer depuis longtemps. Il m'avait promis d'être de retour avant la nuit.
Ada redescendit au rez-de-chaussée pour aller dans la cuisine. Cette pièce, qui des siècles durant n'avait été fréquentée que par les serviteurs et les voïniks, qui y livraient de temps à autre de la viande provenant de leurs abattoirs, était devenue un centre d'activité humaine. Ce soir-là, c'était Aimé et Rayman qui supervisaient les préparatifs. Il fallait servir chaque soir 50aine de couverts. Et 12aine d'hommes et de femmes s'affairaient à cuire le pain, laver la salade et rôtir la viande à la broche, produisant une joyeuse cacophonie qui ne tarderait pas à déboucher sur un festin convivial. Aimé fit un signe à Ada.
Ils sont rentrés? Pas encore,
répondit Ada avec un sourire, faisant de son mieux pour paraître insouciante.
Ils ne tarderont pas,
dit Aimé en lui tapotant la main. Pour la énième fois, avec une bouffée de colère qu'elle regretta aussitôt, car elle aimait bien Aimé, Ada se demanda pourquoi les gens se sentaient ainsi autorisés à tapoter et à caresser une femme du seul fait qu'elle était enceinte.
« Bien sûr, » dit-elle, « et j'espère qu'ils rapporteront un peu de venaison et au moins 4 des bœufs qui se sont enfuis. Non, 2 bœufs et 2 vaches, ce serait encore mieux. Nous avons besoin de lait, »
opina Aimé. Après lui avoir tapoté la main une nouvelle fois, elle retourna devant la grande cheminée. Ada décida d'aller dehors. L'espace d'une seconde, le froid lui coupa le souffle, mais elle avait pris son châle et le resserra autour de ses épaules et de sa gorge. L'air glacial picotait ses joues rougies par la chaleur de la cuisine, et elle s'attarda quelques instants dans le patio de derrière pour laisser ses yeux s'habituer à l'obscurité.
Zut ! Levant la main gauche, paume tournée vers le ciel, elle invoqua la fonction Proxnet en visualisant un triangle vert inscrit dans un cercle jaune. C'était la cinquième fois en 2 heures qu'elle tentait le coup. L'ovale bleu se forma lentement au-dessus de sa paume, mais l'image holographique demeurait brouillée par les parasites. Selon Harman, ces défaillances occasionnelles du Proxnet, du Farnet et même de la fonction localisation n'étaient pas imputables à leurs organismes. Les nanomachines étaient toujours là, dans leur sang comme dans leurs gènes, avait-il ajouté en riant, mais probablement aux satellites et aux astéroïdes relais des anneaux P et E qui subissaient l'interférence des averses météoriques quotidiennes. Levant les yeux vers le ciel vespéral, Ada vit les anneaux polaires et équatoriales qui tournaient, telles deux bandes entrecroisées, composées chacun de milliers d'objets lumineux. Durant la quasi-totalité de ses 27 ans d'existence, ces anneaux avaient été pour elle un spectacle des plus rassurants. C'était là que se trouvait l'infirmerie, où leur corps était renouvelé tous les 20 et les demeures des postes humains qui veillaient sur eux et dont ils rejoindraient les rangs à l'issue de leur 5e et dernier 20. Mais, ainsi que le leur avait enseigné l'éprouvante aventure d'Arman et de Daeman, les anneaux étaient vides de postes humains et représentaient pour eux tous une horrible menace. Depuis des siècles, le 5e 20 était un mensonge, un dernier fax dont la destination était la mort, aux mains d'un monstre cannibale du nom de Caliban. Les étoiles filantes, il s'agissait en fait des débris des deux objets orbitaux dont Harman et Daeman avaient provoqué la collision 8 mois plus tôt, traversaient le ciel d'ouest en est, mais cette averse météorique était bénigne comparée aux bombardements qu'ils avaient subis les premières semaines après la chute. Ada réfléchit à cette expression, universellement acceptée ces derniers mois. La chute. La chute de quoi ? La chute des ruines de l'astéroïde qu'Arman et Daeman avaient détruit à l'instigation de Prospero ? La chute des serviteurs, du réseau électrique, de la classe servile des Voynix qui avaient échappé au contrôle des humains cette nuit-là ? La nuit de la chute ? Cette fameuse nuit, Ada le comprenait à présent, avait vu tomber non seulement le ciel, mais aussi le monde tel qu'il le connaissait depuis plus de 14 siècles, eux et les générations d'humains à l'ancienne qui les avaient précédés. Ada sentit remonter la nausée dont elle avait souffert lors des 3 premiers mois de sa grossesse, mais la cause en était l'angoisse plutôt que son état. L'inquiétude lui donnait la migraine. Elle désactiva mentalement la fonction Proxnet, faisant disparaître l'image brouillée, activa le Farnet, qui ne fonctionnait pas davantage, puis la fonction localisation, nettement plus primitive, mais la femme et les 3 hommes qu'elle recherchait n'étaient pas assez proches pour qu'apparaisse une quelconque lumière, rouge, verte ou orange. Elle désactiva l'ensemble. Invoquer des fonctions lui donna envie de lire. Elle leva les yeux vers les fenêtres éclairées de la bibliothèque, apercevant les personnes qui y étaient occupées à sigler, et regretta de ne pas pouvoir les rejoindre. Comme elle aurait voulu caresser de la main les volumes récemment arrivés qui s'entassaient sur les tables, voir les mots en lettres dorées couler le long de ses bras pour lui emplir le cœur et l'esprit. Mais elle avait déjà dévoré 15 forts volumes ce jour-là, et la seule idée d'en cycler un de plus éveillait à nouveau sa nausée. Lire, ou du moins sigler ? « Ça ressemble beaucoup à la grossesse », se dit-elle, plutôt contente de cette métaphore. « On se sent envahi d'émotions et de réactions pour lesquelles on n'est pas encore prêt. On se sent beaucoup trop plein. On ne se sent plus soi-même. On est catapulté vers un destin incertain, vers un avenir où tout risque d'être chamboulé. » Elle se demanda comment Harman jugerait cette métaphore. Il savait se montrer sévère lorsqu'il critiquait les siennes propres, elle le savait. Puis elle sentit son malaise passer de l'estomac au cœur à mesure que le souci montait de nouveau en elle. Où sont-ils? Où est-il? Pourvu que mon amour n'ait rien. Le cœur d'Ada battait la chamade lorsqu'elle se dirigea vers le cubilo d'Anna, échafaudage branlant bâti autour d'une fournaise rougeoyante, objet d'une surveillance de tous les instants à présent que le bronze, le fer et autres métaux leur étaient nécessaires pour fabriquer des armes. Ce soir-là, c'était Loès, un ami d'Anna, qui entretenait la flamme en compagnie d'un groupe d'hommes plus jeunes. « Bonsoir, Adaour, » lança le grand homme élancé.
Quoique la connaissant depuis des années, il n'avait jamais renoncé à la traditionnelle formule de politesse.
« Bonsoir, Loes Hour. Des nouvelles des Miradors ?»«
Non, hélas. »
Loes descendit de son perchoir au-dessus du cubilo. Ada remarqua distraitement qu'il s'était rasé la barbe et que la chaleur du feu lui avait rougi les joues. Et, malgré les risques de neige, il était carrément torse nu.
« Y aura-t-il un moulage ce soir ?»
s'enquit Ada. Anna veillait à la prévenir en cas de moulage, c'était un spectacle à ne pas manquer, surtout la nuit. Mais Ada, n'étant pas responsable au premier chef de la fournaise, ne s'intéressait que médiocrement à cet élément de leur nouvelle vie.
« Demain matin, Ada Hour. Et je suis sûr qu'Arman Hour et les autres ne vont pas tarder. Les anneaux et les étoiles sont si brillants qu'ils ne risquent pas de s'égarer.
« Oh oui, bien sûr.
Et Daemon Hour, est-ce que tu l'as vu ?»
Loes s'épongea le front, échangea quelques paroles avec l'un des porteurs de bois et lança
« Daemon Hour est parti ce soir pour Paris-Crater, tu ne te rappelles pas ? Il va chercher sa mère pour la ramener à Ardis. »
« Oui, c'est vrai, »
fit Ada en se mordant la langue.
« Il est parti avant la tombée du soir au moins. Je l'espère bien en tout cas. »
Ces dernières semaines, les Voynix avaient augmenté la fréquence de leurs attaques sur la route du pavillon Fax.
Oui, Ada Hour. Il a minuté son départ de façon à arriver au pavillon en fin d'après-midi. Et il s'était armé d'une arbalète. Il attendra que le soleil se soit levé à Ardis avant de revenir avec sa mère.
Bien,
fit Ada. Elle se tourna vers la palissade qui longeait la forêt côté nord. La colline était déjà plongée dans l'obscurité, de lourds nuages noirs ayant chassé la lumière du couchant, et elle imaginait sans peine les ténèbres qui devaient régner sous les arbres.
« Rendez-vous après dîner, Loes Hour ?»«
Bonne soirée en attendant, Ada Hour. »
Elle se coiffa de son châle pour se protéger du vent qui se levait. Ses pas la portaient vers l'entrée nord, mais elle se refusa à héler les sentinelles en poste dans le Mirador de crainte de les distraire. En outre, elle avait déjà passé une heure là-haut, en fin d'après-midi, presque heureuse de guetter la campagne au nord. C'était avant que l'angoisse commence à la ronger. Ada longea le château d'Ardis sur sa façade est, saluant les gardes armés de lances en poste près de l'allée circulaire. On avait allumé les torches le long de celle-ci. Pas question de regagner l'intérieur du château. Il y avait là trop de chaleur, trop de rire, trop de conversation. Elle aperçut la jeune PAN en grande conversation sous le porche avec un de ses admirateurs qui avait quitté Ulan-Bat pour Ardis après la chute. C'était l'une des plus ferventes disciples d'Odysseus à l'époque où il leur transmettait son savoir avant qu'il ne se renferme sur lui-même et se fasse appeler personne. Et Ada fit demi-tour pour regagner une cour latérale, peu désireuse de prendre part au débat qui semblait les agiter.
Et si Arman mourait ? Et s'il était déjà mort quelque part dans le noir ?
Dès qu'elle eut traduit ses craintes en mots, elle se sentit mieux, libérée de sa nausée. Les mots étaient pareils à des objets. Ils rendaient une idée plus solide, comme si un nuage de gaz délétère se cristallisait en un cube répugnant que l'on pouvait néanmoins tourner et retourner afin d'en étudier toutes les répugnantes facettes.
Et si Arman mourait ?
Elle n'en mourrait pas. Ada était une réaliste et elle le savait. Elle vivrait, elle donnerait la vie à leur enfant. Et peut-être aimerait-elle encore. La nausée revint à cette idée et elle s'assit sur un banc de pierre glacée depuis lequel elle avait vu sur le cubilo flamboyant et sur la porte nord un peu plus loin. Ada savait qu'elle n'avait jamais aimé avant Arman. Alors même qu'elle se voulait amoureuse, elle avait su dès l'adolescence que ce que le monde d'avant la chute appelait amour n'était que flirt et amourette. Jamais elle n'avait aimé ni la vie, ni les autres, ni elle-même. Avant Arman, jamais Ada n'avait connu cette plénitude que l'on éprouve en dormant auprès de l'être aimé. En dormant, pas seulement en couchant, et en se réveillant auprès de lui en pleine nuit, en sentant son bras posé sur elle tandis qu'elle se rendormait, lorsqu'elle se réveillait à nouveau l'aube venue. Elle savait tout d'Arman, ses murmures secrets et inconscients, et aussi son odeur, une odeur d'homme et de grand air, où affleurait le parfum du cuir de la sellerie, des écuries qu'elle apercevait derrière le cubilo, et le fumet d'automne montant de l'humus de la forêt. Les mains d'Arman avaient laissé leurs empreintes sur son corps, et pas seulement au cours de leurs fréquentes étreintes amoureuses, mais aussi lorsqu'il les posait doucement sur son épaule, ou sur son bras, ou encore au creux de ses seins. Et le poids de son regard lui manquerait autant que le contact de ses mains, elle le savait. En fait, la conscience qu'il avait d'elle, les attentions qu'il avait pour elle, avaient fini par devenir presque palpables. Ada ferma les yeux et s'autorisa à sentir la grosse main d'Arman se refermant autour de la sienne. Elle avait des doigts longilignes, lui les avait larges et courts, et sa main calleuse était toujours chaude. Comme sa chaleur lui manquerait. Mais ce qui lui manquerait le plus si Arman venait à mourir, outre bien entendu l'essence de son bien-aimé, ce serait l'incarnation de son avenir qu'il représentait désormais. Pas de son destin, mais de son avenir. Cette ineffable sensation que le mot « demain » signifiait qu'elle verrait Arman, qu'elle rirait avec Arman, mangerait avec lui, parlerait avec lui de leur enfant à naître, irait même jusqu'à se quereller avec lui. Ce qui lui manquerait avant tout, c'était cette certitude de vivre plutôt que de seulement exister. Cette promesse chaque jour renouvelée de s'engager aux côtés de son bien-aimé dans l'infinie variété des choses. Assise sur son banc de pierre, sous un ciel où les anneaux tournaient doucement, où l'averse météorique gagnait en intensité, face à son ombre longiligne sur la pelouse blanchie, Ada se rendit compte qu'il était plus facile d'envisager sa propre mort que celle d'un être cher. Ce n'était pas exactement une révélation. Elle avait déjà imaginé semblable chose à maintes reprises. Ada avait beaucoup, beaucoup d'imagination. Mais la réalité, la totalité de son sentiment la bouleversait. À l'instar de la nouvelle vie qui croissait en elle, l'amour qu'elle avait pour Arman, la peur qu'elle avait de le perdre, l'infusait littéralement. C'était quelque chose qui non seulement la dépassait, mais qui dépassait aussi ses capacités mentales comme affectives. Ada s'était attendue à aimer l'amour avec Arman, partager son corps avec lui, à prendre le plaisir qu'il pouvait lui donner, mais ainsi qu'elle l'avait découvert à mesure qu'il devenait plus proche, on eût dit que chacun d'eux découvrait un nouveau corps, une entité qui n'était ni lui ni elle, mais quelque chose qu'il partageait sans pouvoir l'expliquer. Ada n'avait parlé de cela à personne, même pas à Arman, bien qu'elle sût qu'il partageait ce sentiment. Et sans doute avait-il fallu que survienne la chute pour que ce mystère émerge librement chez les humains. Les 8 mois qui s'étaient écoulés depuis la chute auraient dû être pour elle une période d'épreuve et de tristesse. Ses serviteurs avaient cessé de fonctionner, elle avait dit adieu à une vie d'aisance et de fête, le monde qu'elle avait toujours connu avait disparu à jamais, sa mère, qui avec 2000 autres avait refusé de quitter le domaine de Loman situé sur la côte Est, jugeant Ardis trop dangereux, était morte l'automne précédent lors d'une attaque de Voynix qui n'avait laissé aucun survivant. Sa cousine et amie Virginia avait disparu de son domaine de Chaume, au nord du cercle polaire. Elle devait désormais se soucier de nourriture et de chauffage, de sécurité et de survie. Elle savait désormais que la firmerie n'existait plus, que le paradis promis des Anopés et eux n'était qu'un mythe, que la mort les attendait tous, qu'ils n'avaient même plus droit à une durée de vie de 5-20, qu'ils pouvaient périr n'importe quand. Tout cela aurait dû paraître terrifiant, oppressant même, à une jeune femme de 27 ans. Elle avait été heureuse, plus heureuse que jamais. Tous ces nouveaux défis qui se présentaient à elle, la nécessité qu'elle avait de se montrer courageuse, de faire confiance aux autres et de leur confier sa vie, tout cela avait fait son bonheur. Sans parler de son amour pour Arman, lequel l'aimait en retour comme jamais ne l'aurait permis le monde d'antan, un monde de fax, de fêtes, de serviteurs, de luxe et de liaisons éphémères. Et si elle se sentait malheureuse chaque fois qu'il partait pour une expédition de chasse, pour un raid chez les Voynix ou un voyage en Sony, destination le Golden Gate à Machu Picchu ou quelque autre site antique, à moins que sa soif de connaissance ne le conduise dans l'une des 300 et quelques communautés survivantes. Une bonne moitié de l'espèce humaine a péri depuis la chute, et jamais nous n'avons été 1 million, nous le savons maintenant. Ce chiffre que les post-humains nous avaient jeté en pâture n'était qu'un mensonge. Elle était heureuse chaque fois qu'il revenait, et son bonheur devenait suprême chaque jour qu'il passait auprès d'elle dans ce château d'Ardis, aujourd'hui si dangereux. Elle continuerait de vivre si son bien-aimé Arman venait à mourir. Elle survivrait et se battrait, donnerait le jour à son enfant et l'élèverait. Peut-être aimerait-elle à nouveau, elle le savait. Mais elle savait aussi que la joie farouche, céleste de ces 8 derniers mois aurait à jamais disparu.
« Arrête ces bêtises !» s'ordonna-t-elle.
Elle se leva et ajusta son châle, et elle se dirigeait vers la porte du château lorsque sonna la cloche du Mirador, lorsque retentit la voix d'une sentinelle.
« 3 personnes approchent depuis la forêt !»
Interrompant leur tâche, tous les hommes de service au Cubilot saisirent qui une lance, qui un arc ou une arbalète et foncèrent vers la palissade. Les sentinelles en poste dans les cours est et ouest convergèrent elles aussi vers les échelles.
« 3 personnes ?»
L'espace d'un instant, Ada demeura figée sur place.
Ils étaient partis à 4 ce matin, et ils avaient emmené un droski tracté par un bœuf.
S'ils revenaient sans véhicule ni bête de trait, cela signifiait qu'il était arrivé quelque chose de grave. Dans le cas d'une blessure bénigne, une cheville foulée, une jambe cassée, le droski aurait servi à transporter le blessé.
« 3 personnes approchent de la porte nord !»
cria la sentinelle.
« Ouvrez la porte ! Elle transporte un corps !»
Ada laissa choir son châle et courut à toutes jambes vers l'entrée nord.